Une émission soutenue financièrement par Jean-Noël, Fabien Aubart, Christine Minetto et Johan Panier. Si vous voulez nous soutenir comme eux, n'hésitez pas à aller sur tipeee.com/eTeachers. Allez, bonne émission. eTeachers,
le podcast des profs numériques. Éducation
numérique.
Actu,
outils, expérimentation,
productivité,
interaction, innovation,
Jeff,
Guillaume,
Seb
et Seb.
Précédemment, dans les épisodes 77, 78 et 79 du Teachers.
C'est moi, allez. Je vais parler d'un outil qui n'est pas nouveau, mais qui est peut-être peu connu, qui s'appelle Augment, A-U-G-M-E-N-T. Augment, c'est un service de réalité augmentée. Alors, la réalité augmentée, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est la réalité augmentée, c'est le principe d'intégrer du virtuel sur le réel, hein, c'est-à-dire à travers un outil, un appareil numérique, un type tablette ou smartphone, où on va voir à travers l'appareil photo le réel et par-dessus, on va pouvoir intégrer du virtuel.
Si je te coupe juste un peu en termes de terminologie, parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que pour toi, la réalité augmentée et la réalité virtuelle sont deux choses similaires ou différentes ?
Complètement différentes. Complètement différentes.
D'accord.
Pour moi, la réalité virtuelle, on est carrément intégré dans le monde et on ne voit pas l'extérieur. Voilà, on voit
donc
pas
c'est vraiment l'idée des casques qui nous enferment.
Voilà. Non, c'est comme ça que tu l'aurais défini aussi ?
Oui, en fait, moi, j'avais la réponse. C'était une relance un petit peu journalistique qui me permet à nos auditeurs de comprendre.
T'es un bourdon.
Merci.
Voilà. Donc, Augment, lui, va permettre d'intégrer des objets, des éléments 3D dans le réel. Vous allez me dire dans quel cas ? Ben, par exemple, dans le cas d'un projet d'architecture où on va pouvoir créer, par exemple, je sais pas, un meuble qu'on va pouvoir intégrer à son environnement réel, à sa vraie pièce derrière. Donc, c'est quelque chose qu'on fait, par exemple, en techno au collège, mais je sais que ça s'est fait aussi en lycée pro. On utilise pas mal la réalité augmentée pour ça, pour vraiment l'intégrer au collège, pour l'intégrer au réel. Augment, donc, c'est un service qui est gratuit. Surtout parce qu'on peut créer un compte éducation. Alors, on crée un compte sur Augment classique, qui est assez limité, le compte classique. Mais après, derrière, on peut créer un compte éducation. Alors, je crois qu'il y a 24 heures pour pouvoir y accéder à ce compte-là. Et qui va permettre vraiment, je connais pas les limites du compte éducation, hein, je t'avoue, j'ai l'impression que c'est complètement ouvert. Et après, le principe, c'est quoi? Eh ben, c'est qu'on va simplement insérer nos propres objets 3D, soit que l'on a créé, moi c'est ce qu'on fait, à partir de logiciels 3D, type, je ne sais pas, SketchUp pour le plus connu, SolidWorks, etc., à des formats qui vont parler à ceux qui ont déjà fait de la 3D, du point DAE, du point STL, qui sont les plus connus, du point OBJ, qui sont vraiment les trois plus connus dedans, et qu'on va intégrer dedans. Une fois qu'on a intégré notre objet 3D, tout simplement à partir d'un QR code qui va être créé par Augment. Ce QR code, on va l'imprimer. On va le positionner à l'endroit où l'on veut intégrer. Par exemple, là, c'est un cas d'une chaise longue qu'on veut intégrer sur notre terrasse, par exemple. Je vais aller mettre mon QR code là où je veux mettre ma chaise longue. Et à partir de ma tablette, je vais pouvoir scanner ce QR code et voir ma chaise qui va s'intégrer complètement au niveau de la terrasse. Donc, on va voir complètement et on va pouvoir faire ensuite une copie d'écran, quelque chose comme ça, pour vraiment l'intégrer. Ça, c'est une des premières choses très simples à partir du QR code. La puissance d'Augment, c'est ce qu'on appelle les trackers. Les trackers, ça va permettre de... Là, cette fois-ci, pas à partir d'un QR code, mais à partir d'une photo. Imaginez, moi, j'avais un projet avec mes élèves. Je leur avais donné une photo de comment ça s'appelle, d'un environnement entre d'une vallée où il fallait qu'ils créent un pont en 3D et ensuite l'intégrer dans cette vallée. Le mieux, c'est qu'on se déplace tous ensemble, qu'on aille à l'endroit et qu'on intègre. Mais ça, c'était pas possible, hein. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé un grand poster dans ma salle. Et à partir d'Augment, quand ouvraient Augment et qui scannaient le poster, ils reconnaissaient ce poster-là parce que je l'avais créé un tracker dans Augment, et tout de suite on avait leur pont en 3D qu'ils avaient créé dans l'environnement du dans l'environnement. Je sais pas si
d'accord,
c'est
à peu près clair ce que tu as compris. Si, si, moi j'ai bien compris ce que j'aurais voulu voir pour ceux qui verront peut-être en vidéo. Est-ce que tu as quelque chose à montrer, une capture de...
Bah, il aurait fallu que je diffuse un appareil.
Non, non, mais je ne sais pas si tu avais fait peut-être une capture de quelque chose, mais c'était pas grave.
Non, il aurait fallu que je fasse en direct la démo avec le... Comment ça s'appelle ?
Alors, c'est pour... Oui, je vois ce que tu veux dire.
Je te coupe. Dis-moi.
Ce que je voulais dire, c'est que finalement, c'est assez proche de pas mal d'équipementiers de meubles scandinaves qui ont des applications,
oui,
qui ont sorti des applications similaires
pour pouvoir imaginer. Pour pas les citer, ouais.
Voilà, exactement.
Moi, c'était le cas d'un meublement, mais tu vois, dans le cas d'un pont, on n'est plus dans l'ameublement, mais on est dans ce principe-là, quoi, voilà.
Ouais, ouais, mais c'est quand même vraiment intéressant. Moi, j'imagine même plus tard pour des études supérieures, les gens qui travaillent sur l'organisation des villes, des mobiliers urbains notamment, ce genre de choses, ou même des paysagistes, des choses comme ça. J'imagine qu'il y a des applications concrètes qui sont assez rapidement intéressantes. Quoi.
Je crois que c'est Amazon qui sort un truc comme ça sur l'habillement. Tu vois, on peut essayer en réalité augmenter notre dernier jean qu'on veut acheter avant d'acheter, tu vois. Donc voilà.
Ouais, c'est pratique ça pour les slips, c'est bien, bien nickel. quelle différence par rapport à cette fameuse application qui s'appelait Orasma, qui maintenant s'appelle HP Reveals, puisque je crois que c'était racheté par HP justement. Ben,
si HP Reveal ou anciennement Orasma, c'était plutôt du style du livre augmenté où on pouvait mettre une image, un son, une vidéo. Mais je suis pas sûr qu'on pouvait mettre un objet 3D qu'on pouvait tourner autour.
Non.
Voilà.
Effectivement, Rossmann, c'était plutôt en fait voilà des pages enrichies, on va dire, quand on interagissait avec une photo, choses comme ça, on avait un enrichissement supérieur. Est-ce que c'est possible d'avoir ça justement dans ton application en plus de l'objet que tu insères?
Pas du tout. Augment, c'est sur la 3D. On est vraiment sur la 3D. C'est vraiment l'objet 3D. Voilà.
Donc c'est placé l'objet 3D dans une. Alors je vais me faire l'avocat du diable, mais finalement, est-ce que à la limite en prenant juste une photo de l'espace. Je prends une photo, je sais pas, de ta cuisine, et puis après, tu as tes éléments à côté, tu mens sur la photo aussi.
Oui, alors là, il faut aller faire dans un logiciel de retouche d'image, etc., la positionner, etc. Là, l'intérêt, c'est qu'on tourne autour aussi. Voilà, on peut avoir.
Oui, c'est vrai. Il y a vraiment un rapport à la réalité, en fait. Ouais.
Voilà, on tourne autour de l'objet, etc.
Tout à fait. Ok, bon, bah écoute, ma foi, c'est fort intéressant. Ok, bah, je vais continuer alors. Si c'est ok avec toi.
Bien sûr, tu peux y aller.
Allez, j'ai une mauvaise connexion ce soir.
On a un léger décalage tous les deux. Hein. Ouais.
Oui. Donc j'espère que ça ira. Et je tente quand même le partage d'écran. Si ça rame trop, tu me le dis. Bien, un outil assez classique en fait. Il en existe d'autres, mais celui-là, je le trouvais vraiment encore plus facile. Ça s'appelle Capsule Link. L'idée, c'est quoi ? C'est de faire en fait de créer des liens intelligents. D'ailleurs, il y a un service similaire qui s'appelle Smart URL en mauvais anglais, qui permet en fait de, quand vous donnez un lien à quelqu'un, d'apporter des liens enrichis, c'est-à-dire avec beaucoup plus qu'un simple lien. Par exemple, ici, en quelques clics, vous voyez là, je me suis connecté au site. Hein, j'ai pas créé de compte, quoi que ce soit. Il suffit que j'ajoute une adresse qui va m'intéresser. Donc, par exemple, moi, je prépare ici. Imaginons que je souhaite ajouter, je n'en sais rien, bah, tiens, la page de l'ENT de mon département. Hop, je copie-colle dans la barre d'adresse et c'est parti, il m'a rajouté le lien. Je vais rajouter un second lien, cette fois pour aller voir, je ne sais pas, mais un site d'anglais, Audiolingua pour ne pas le citer. Marche pas, on va en prendre un autre. Un site, peu importe. Celui-ci, ça marche pas non plus. Oui, mes favoris sont bien organisés, c'est super.
Donc tu mets une liste de
oui, pas exactement. Je prends Vocaroo, un enregistreur vocal, c'est parfait. Hop, je le rajoute, etc., etc. Et bien évidemment, je vais pouvoir aller faire ce genre d'ajout de très nombreuses fois. Hein. Il y a presque, alors la version non connectée, je crois qu'on est limité en nombre de liens. Vous pouvez créer un compte pour être vraiment en proposer autant que vous voulez, mais je crois que c'est déjà en non connecté, c'est déjà énorme. On peut proposer un titre, lien pour travailler la séance de demain, hop, crac, et je génère un lien de groupe. Je le trouve ici. Bon, bien évidemment, ce lien, c'est celui-ci que vous allez donner aux élèves ou aux personnes à qui vous voulez communiquer.
C'est pas très audio, c'est très vidéo là, mais.
Ouais. C'est vrai que c'est pas très audio, c'est-à-dire que quand j'ai ajouté mes deux liens, enfin le nombre de liens que vous voulez à cette page, vous pouvez générer un seul lien qui va ensuite reprendre en fait toute cette compilation de liens que je fais. Donc là, je copie-colle en ce moment même le lien que le site me crée.
Et donc c'est un capsulelink.com et slash et un nom, c'est ça hein.
Voilà, exactement, un nom un peu imbuvable, mais c'est pas grave, l'idée c'est de l'envoyer par ce que vous voulez. Hop, et là, je me mets en mode élève par exemple, et quand je clique sur le lien que mon prof m'a donné, j'arrive et je trouve exactement tous les liens qui m'ont été proposés par mon prof.
C'est sous quelle forme? C'est une liste de liens, c'est ça?
C'est une liste de liens, une sorte de liste de liens un petit peu plus jolie et surtout qui est responsive, c'est-à-dire que qui va très très bien se lire sur les appareils mobiles. Pour info, il y a aussi une extension Chrome qui va permettre de rajouter. Vous êtes sur un site par exemple récent pour le mettre dans ce catalogue de liens que vous donnerez ensuite, et ben il suffit de cliquer dessus et ça le rajoute automatiquement. D'accord. Alors l'intérêt, on connaît énormément de possibilités pour donner des liens, envoyer par Twitter, par tout ce qui existe, par email, dans des articles, sur des blogs, ce que vous voulez. Voilà, là c'est vraiment très très simple. C'est l'idée de grouper en fait des liens, de sauvegarder, de les envoyer comme un seul. Voilà, vous avez 15 liens sur un même sujet qui vont vous servir sur une même thématique, plutôt que d'envoyer ça en 15 fois différents sur un email, vous les envoyez avec une seule adresse et les gens trouveront tous ces liens organisés de manière un peu plus sympa sur une page internet. Voilà, Capsule Link, c'est vraiment très très simple d'utilisation, tout ouais, simplement.
Pour faire une mini veille aussi, c'est pas mal aussi, je pensais. C'est avec,
l'extension. Oui, c'est vrai. Ça peut être effectivement avec une mini veille, c'est pas une mauvaise idée, tout à fait. Ouais, voilà.
Ok, très bien, Capsule Link.
C'est moi qui ai mis ce premier outil. Je le dois à notre cher ami, collègue Tisman, qui en a parlé récemment dans un de ses billets. Il s'agit en fait d'une petite extension, hein, add-on en anglais, qui est là pour aider les élèves qui sont donc en situation de handicap de dyslexie exactement, et qui va permettre d'adapter un petit peu le texte. Donc, il me semble, on a certainement déjà dû parler de ce genre d'outil dans des teachers. En tout cas, je ne l'avais jamais encore vu, je l'ai testé du coup avec des élèves ce matin et je reconnais que c'était assez intéressant. Donc comment il fonctionne très simplement, messieurs dames, on va faire un hommage à Pierre Belmar ce soir. Alors comment ça marche? Pour le moment, il y a une somme de 595 francs, on y va.
Ça me t'avais fait la même il y a un mois, hein. je vais pas dire
non, c'est vrai. Oh merde.
C'était loin.
Non mais je sais que t'es assez fan, donc
J'adore Pierre Belmar.
Pierre, si tu
peux faire, tu peux faire Maryse d'ailleurs. Oui, Pierre.
Oui, bien sûr.
Alors, revenons au mouton. Là, je suis sur une page Wikipédia et en haut à droite, ici, j'ai mon petit add-on qui est.
Alors, ce que tu appelles un add-on, c'est une extension. C'est
une
ça
extension, hein, une extension. D'accord, effectivement. Ouais. Là, je suis sous Chrome. De mémoire, elle existe sous Firefox aussi, mais en tout cas, sous Chrome, c'est certain, sur toutes les plateformes, bien évidemment. Donc, quand je clique dessus, en fait, je peux activer l'extension. D'abord, je vais activer une première on et je peux activer tout un tas de paramètres, notamment en ce qui concerne des affichages qui vont aider en termes de police, pourquoi pas éventuellement faire afficher les syllabes avec des couleurs qui sont surlignées pour montrer les différentes syllabes, quelque chose au niveau des phonèmes, quelque chose au niveau des lettres, c'est assez pointu, hein, moi je, et l'écriture HF, je sais pas exactement ce que c'est, vous allez peut-être pouvoir m'aider, je me rappelle plus. En tout cas, on a bien sûr tout un tas de de pardon, j'y arrive, de préférences qui permettent de changer la totalité des réglages possibles en termes de couleur, en termes de taille. On a même de l'écriture inclusive, si on veut, pour la mise en forme. Et je suis assez d'ailleurs content de ça, tout simplement, parce que j'ai toujours trouvé que l'écriture inclusive, au-delà du débat éthique sur cette partie, me posait un gros problème, justement, pour les élèves 10, puisque moi-même, quand je lis des textes en écriture inclusive, je trouve que ça devient illisible, tous ces points au milieu des mots. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment pas facile. Et là, cette petite extension permet effectivement de régler des petites choses. Alors, c'est très simple. J'ai activé l'outil. Il suffit, en fait, de se balader. Par exemple, là, je vais activer juste la police qui va changer. Le paragraphe ou le mot en question que vous voulez lire, avec un raccourci, ici, la touche commande sur mon Mac, hop, je vais choisir par exemple tout ce paragraphe, je clique, et vous voyez, ça me transforme automatiquement la police. Donc là, je suis dans une police qui est a priori adaptée pour les élèves en situation de dyslexie. Donc là, c'est uniquement la police qui change. Je peux également donc activer la coloration des syllabes. Je vais essayer ça sur un autre. Sur un autre paragraphe, vous voyez, on a là les syllabes qui sont surlignées de différentes couleurs. Je peux également activer les phonèmes. Voilà, attention, je vais essayer ici. Hop, et voilà, là j'ai les phonèmes qui sont soulignés pour le rapport graphie-phonie. Bon, je ne vais pas aller plus loin, vous avez compris. L'idée, c'est que c'est bien sûr un outil qu'il faut présenter aux élèves en situation de dyslexie, plutôt de dyslexie lourde, et la possibilité qu'ils se l'approprient, qu'ils soient autonomes, qu'ils puissent se l'installer, et bien sûr choisir ce qu'ils souhaitent activer ou désactiver, bien sûr, ou faire apparaître ou cacher. Voilà, DysAid, comme son nom l'indique. C'est absolument gratuit, bien évidemment. Et je trouve que c'est pas mal. Voilà.
Ouais, ça reprend les fonctions classiques de ce genre de logiciel, mais sous forme d'une extension, c'est pas mal.
Tout à fait. Il n'y a pas de grande nouveauté là-dedans. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à apporter. C'est assez pratique, quoi.
Voilà, tout à fait.
En tablette, c'est possible, non? Tu sais pas?
Non, j'ai pas poussé plus loin. En fait, je sais même pas si on peut ajouter des extensions générales sur les navigateurs tablettes. Hein. Je crois pas.
Non, je pense pas non plus. C'est vrai qu'un outil comme ça, tablette, moi, je cherchais un moment puisque nos élèves 10 ont donné une tablette. Alors.
C'est évident. Alors après, je sais que sur les tablettes, il y a dans les réglages d'accessibilité, on peut faire des choses, mais souvent c'est très basique. Hein. Enfin, c'est basique. Disons que c'est pour les personnes en situation de malvoyante, peut-être pas non-voyante, mais en tout cas malvoyante ou non-voyante pour les avec le voice-over, tout ce qui est voix qui lit tous les menus, ce genre de choses. Mais je crois pas que pour ce degré-là, je pense pas que peut-être à réfléchir. En tout cas, pour des développeurs qui nous écouteraient, ça peut être effectivement très intéressant.
On ne prend
voilà,
que 10%.
On est... Tout à fait.
D'accord. Ouais. Non, ça va. Je connaissais cet outil-là dans LibreOffice ou Word, mais pas sur le navigateur. Tu vois. Non, c'est bien. Ok. Allez, je vais. J'enchaîne. Ouais. Je vais enchaîner avec mes petits joujoux du moment. En ce moment, j'ai eu la chance d'avoir un petit robot qui ressemble à ça pour ceux qui sont en vidéo. C'est trois petites boules là. Il est tout mimi là. Il s'appelle le Dash. Dash, D-A-S-H-H. D-A-S-H, pardon. C'est un petit robot alors qui n'est pas donné, hein, qui vaut une. Moi, je vais essayer de l'allumer. Vous le voyez un petit peu bouger pour ceux qui sont en vidéo. Je sais pas si vous entendez dans le micro. Alors il est super mimi, super ludique. On se dit ça va bien le faire, ça pour les tout petits. Ben, plus que ça, parce qu'on peut vraiment aller très très loin dans ce robot là. Alors ça vaut 150 €. Je disais c'est quand même pas donné, mais il est quand même assez puissant puisqu'il a quand même deux moteurs forcément, hein, qui fait droite gauche avant arrière. Ça y a pas de souci. Il a un petit vous avez vu un petit œil lumineux au-dessus qui va pouvoir bouger à droite, à gauche, cligner de l'œil, envoyer des choses, envoyer des sons, ce qui peut être intéressant, s'enregistrer même et émettre ensuite l'enregistrement. Il a un capteur de contact devant, donc on va pouvoir jouer avec les capteurs, etc. Alors, hormis l'objet technologique que je trouve vraiment, vraiment très intéressant par rapport à certains que j'ai du commerce, c'est que au point de vue application, il est vraiment très puissant puisqu'on va trouver plusieurs styles de langage. Pour les tout petits, on va avoir un langage dans une application qui s'appelle... alors, c'est uniquement tablette, puisqu'il marche uniquement sur Bluetooth. Par Bluetooth, hein, celui-là, uniquement tablette. Android et iPad, ne marchera pas sur l'ordinateur. La connexion est assez simple, puisqu'en fait, on peut avoir un robot pour, par exemple, une classe. Hein, moi, je l'ai fait fonctionner. Les élèves font leur programme sur leur tablette et puis se connectent au fur et à mesure sur le robot pour tester leur programme. Donc, tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir forcément énormément de robots. Ça, j'avais trouvé ça plutôt intéressant. Alors, au point de vue langage, on a des langages très simples avec l'application Wonder, qui est un langage graphique où on va avoir des suites d'instructions qu'on va relier les unes avec les autres. L'application est en anglais, mais il n'y a pas besoin de forcément savoir lire pour faire ce petit programme. Et ce qui m'intéressait plus, c'est la partie bloc, hein, puisque c'est la mode en ce moment du bloc en cycle 3, voire même cycle 2, hein, puisque j'ai vu quelques collègues utiliser le bloc en cycle 2. Et qui s'appelle simplement Blockly, qui est la partie, mais par contre, qui est complètement en anglais. Alors, ça a un peu rebuté certains. Alors, elle est vraiment très puissante. Hein, on peut vraiment faire des choses vraiment intéressantes. J'ai fait programmer un groupe cet après-midi de personnes qui simulaient, tu vois, un robot aspirateur, hein, donc qui détectait les obstacles, qui tournait, qui repartait, etc. Vraiment, vraiment très intéressant. Et assez poussé. Sauf qu'elle est en anglais. Donc, moi, j'ai cherché un petit peu s'il y avait possibilité d'avoir une version francisée. En fait, il en existe une. Alors, c'est pas une app officielle. Hein. C'est une app qui a été développée par Tierce. Elle n'est pas parfaite, j'avoue. Hein. Elle s'appelle Blockify, tout simplement F-I-F-Y. Et il y en a une Blockify for Kids qui permet de programmer ça en français. Elle n'est pas parfaite parce qu'elle plante de temps en temps, hein, je l'avoue, hein, mais qui permet de faire pas mal de choses. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'était pas trop pour mes élèves. En fait, c'est en direction, je vous en parlerai peut-être de ce que je fais en ce moment, hein, puisque je me suis lancé dans des formations justement envers les PE sur la robotique. Et donc, c'est un des robots qu'on m'a prêté, en tout cas pour tester, et que j'ai trouvé plutôt très intéressant, en tout cas, ce robot-là. Voilà. Et très fiable. Voilà, très, très fiable. Voilà, Dash, D-A-S-A, je vous le trouve un peu n'importe où, hein, pour l'acheter, même sur les bons sites de e-commerce, vous les trouvez. Un petit outil que j'ai découvert sur le très bon site qui s'appelle outiltis.com, qui s'appelle tu vas m'excuser, Guillaume, hein, summarizebot.com. Ça te va ?
J'allais en parler. Très bien, très bien, très bien, très bien.
T'allais en parler, c'est vrai ?
Ouais, je ne l'ai pas mis parce que je voulais le garder pour une prochaine émission, mais vas-y, vas-y, c'est très bien.
Eh ben, c'est bluffant, quoi. C'est assez bluffant. Donc, à quoi ça sert ? C'est pour résumer, en fait, un article ou un texte. Hein, et comme son nom l'indique, c'est un bot, donc on va dire, on traduit quoi ? Intelligence artificielle ou
algorithme,
hein. Voilà.
Bot, c'est simplement la dernière syllabe de robot, hein, ça vient de là,
voilà,
tout simplement.
Ouais, c'est ça. Donc, il va permettre, en fait, à partir d'un texte, de faire un résumé entier du texte, rien que par l'intelligence artificielle, et on va pouvoir faire un résumé de 10 à 50% du texte. Donc, en fait, vous allez sur le site qui s'appelle donc, summarizebot.com. On mettra les notes de l'émission avec deux M, hein, Summarize. Et vous pouvez l'utiliser soit par Facebook Messenger, en fait, ou soit Slack.
C'est même, tu dois l'utiliser, je crois. Hein. Il faut que ça passe absolument par le service. Hein.
Il faut que ça passe par soit Messenger ou par Slack. Donc, en fait, alors je vais essayer de partager. C'est vrai que j'oublie tout le temps qu'on puisse partager pour nos amis qui nous suivent en live, en vidéo. Ici, il y a un petit chat qui s'ouvre ici, et c'est dans ce chat-là où on va faire « chat now », on va rentrer. Ici, soit on copie le texte directement là-dedans, soit on va copier, on va coller le lien d'un texte. Alors, si je prends un texte, alors comme j'ai bien préparé les choses, je n'ai pas mon texte sous les yeux, mais je vais en trouver un rapidement. Si je prends un petit article un petit peu long, que je vais prendre ici, voilà. Je vais sélectionner le lien de l'article et je vais le rentrer dans le petit chatbot là, de ici. Et il va falloir quoi ? Alors, regardez le temps que ça prend. Voilà, il est en train de travailler. Voilà, le temps que je parle ici, il est en train de travailler. Ça y est, c'est fait. J'ouvre la petite page Et ici, on a un petit article qui est un résumé. Si je vous fais voir l'original, hein, l'original, il est ici. Il est quand même assez long. Je ne sais pas au point de vue ligne comme il y en a, mais vous voyez qu'il est vraiment long. Et ici, on a vraiment un résumé, hein, et on peut gérer le résumé. Là, j'ai un résumé à 20%. On peut le résumer, si on en veut un peu plus, on peut faire un résumé à 50%. Alors, vous allez me dire, oui, et après, eh ben, franchement, c'est assez bluffant parce que j'ai fait le test sur quelques articles, dont un article de ce soir que je vais parler. Eh ben, ça résume vraiment bien l'article. Hein, j'avais vraiment l'essentiel. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des mots-clés ici et qui va vous faire voir un petit peu les mots-clés qui sortent le plus dans le texte. Par exemple, ici, on voit que... Alors, on a stagiaire qui ressort 4,7% du texte. Dis-moi, vas-y.
Oui, en fait, justement, moi, quand j'ai vu l'article aussi, plus grand là, j'ai testé tout de suite. J'étais comme toi, d'abord assez impressionné par la technique. Après, encore une fois, un peu effrayé tout de suite face à ces technologies, en me disant tout de suite, putain, mais les élèves à qui on demande de travailler des synthèses, notamment, et des résumés, un peu, bon, moi, j'ai le même problème en temps dans les traducteurs, bien évidemment, hein. Si ça s'améliore de plus en plus, à quoi ça va servir de travailler la synthèse, puisque quand on fait un résumé d'un texte, à quoi il va servir cet outil dans ta vie de tous les jours? À partir de quel moment toi tu fais des résumés, tu vois?
Je peux te couper. Ouais. C'est pas vraiment un résumé comme on l'entend au terme littéraire. Hein.
Et bien évidemment.
Ça prend vraiment des passages, je pense, les passages importants de l'article.
Donc moi, je me suis posé la question, comment il fonctionne ce truc? Parce que bien évidemment, il ne peut pas faire ce que nous, on appelle des synthèses, puisque la synthèse implique une lecture, une réflexion, une abstraction pour pouvoir classer des arguments. Enfin voilà, je ne vais pas vous faire le cours sur la synthèse, c'est ce que c'est. Donc en fait, il fonctionne uniquement, comme tu l'as montré, par mots-clés qui reviennent avec un certain nombre de fois et même par fragments-clés, c'est-à-dire des mots en fait qui reviennent dans un fragment, dans une phrase. Mais ça reste tout ça uniquement mécanique en fait. Donc je me dis que finalement, à quoi il sert? Puisque dans notre vie de tous les jours, quand on fait un résumé de quelque chose, c'est bien parce qu'on le lit et qu'on en extrait des thèses, des antithèses, des synthèses, et tout se fait ça au collège à une époque, ou en tout cas, donc je me dis à quoi ça sert juste de compresser en fait un texte dans une certaine mesure, si ce n'est parce qu'on a la flemme de lire. J'ai eu du mal à voir comment...
Moi, je pense que c'est simplement une question de rapidité. Tu as envie de lire un article qui prend quelques pages, et ben si tu as envie de vraiment avoir que l'essentiel, et ben tu vas pouvoir gérer comme ça. Moi je perçois comme ça, voilà.
Oui, bien sûr. Ouais. J'aurais toujours un peu peur quand même que ça laisse passer au travers de la notion clé de l'article, parce que les mots clés vont pas apparaître autant de fois. Et en tout cas, c'est bluffant. C'est bluffant. Oui, si, c'est bluffant. Sans remarque qualitative, d'un point de vue purement technique, c'est quand même assez hallucinant.
Je serais curieux d'essayer ça sur un roman, tu vois, vraiment. J'ai pas pensé à ça.
Il faudrait trouver les moments où où on le met en échec aussi. Tu vois, textes qui, franchement, une fois passés à son travers, ne veulent plus dire grand-chose, ou alors tu passes complètement à côté de l'essentiel.
Ben c'est pour ça que je pensais à un roman. C'est vrai que sur les articles, ça marche bien. Moi, je trouve que ça marche vraiment bien sur les articles, un peu longs. Nos documents de programme ou des choses qui sont hyper lourds, je serais aussi curieux
Je pense que c'est un peu basé sur la même technologie que les logiciels anti-piratage qui existent dans les facultés, là, qui sont assez bluffants d'ailleurs. Qui sortent le pourcentage de plagiat, même quand c'est pas plagié mot à mot, qui disent qu'il y a des similitudes, avec les sources même, enfin c'est quand même assez fou ça aussi. Mais en tout cas, là, moi j'ai trouvé ça sur le coup, je me suis dit waouh, c'est la classe. Après, je me suis dit, mais en même temps, si c'est vraiment si c'est juste une réduction quantitative et ça peut pas être qualitatif par définition, ça voudrait dire que l'ordinateur c'est forcément quantitatif. Finalement,
j'ai
eu un lag. il y a eu un petit blanc et là c'est
magnifique. Un blanc, j'ai dit bon, il finit pas sa phrase.
J'ai un gros décalage là, c'est chez moi ou quoi? C'est un truc de fou.
Sur des grands textes, c'est vraiment un outil qui me que je trouve ça bluffant quoi.
Ok, en tout cas,
testez-le, summarizebot.com.
Très bien. Tu prends la suite, Seb?
Allez, je prends la suite. J'étais en manque d'inspiration ce soir, donc je me suis dit, tiens, je vais faire comme l'année dernière, la dernière émission, je vais faire qu'est-ce que j'ai sur mon téléphone pour bosser.
Ah oui, c'est vrai.
Eh oui.
Tu avais fait ça.
Puis j'ai appris que c'était une pratique commune sur YouTube. Alors je dis, bon, ouais, je fais un What's on my phone truc. Alors, par rapport à l'année dernière.
YouTubeur, là.
Attends, ouais. On essaie de se tenir. Hein. Par rapport à l'année dernière, où j'avais pas mal de choses, j'avais un gros dossier, j'ai fait un gros, gros vide et je suis revenu à pas mal d'essentiels, en fait, sur mon téléphone. Alors, j'ai les deux entrées sur mes ENT, sur celui que j'ai utilisé cette année et sur le prochain à venir, puisque je change de, comment dirais-je, d'entreprise, entre guillemets. J'étais sur Classroom que je vais laisser et je vais aller partir sur Benelux. Benelux School.
Ah oui, Benelux School.
Benelux voilà. School. J'ai toujours l'accès à mon drive parce que j'ai tout mon boulot sur mon drive, donc autant qu'à faire, autant l'avoir. J'ai aussi une application dont Jeff avait parlé qui s'appelle Draw Express Lite.
Lite, voilà. Génial pour faire des cartes mentales. Hein. Ouais, ouais.
Voilà. Surtout que, alors pour ceux qui ne savent pas, mais j'ai un note, donc au stylet, cette application est une tuerie.
C'est une tuerie, ouais.
Elle est vraiment pour faire des... J'ai déjà essayé, je me suis fait une carte mentale entière d'une conférence qu'on nous a donnée l'autre fois en formation, et ça a été, mais...
C'est une super appli et les élèves le prennent en main en 2 secondes sur tablette, c'est génial.
Voilà. Exactement, donc super pratique. Ensuite, j'ai du grand classique, j'ai mon lecteur de QR code Enigma, j'ai mes cartes de Trello pour m'organiser, pour mes listes de tâches à faire. J'ai quelques liens, dont un lien qui me permet de faire l'appel le matin sur mon téléphone, qui est super pratique. Avant, je le faisais sur l'ordinateur et dû à une remarque de ma collègue qui m'a dit « Oui, mais quand on fait les exercices incendie, on doit partir avec le cahier d'appel. » J'ai fait « Je partirai avec mon téléphone. » Mais il n'est pas sur ton... Mais si, maintenant, il sera sur mon téléphone. Donc pour ça, merci à Dumouv d'ailleurs, parce que c'est un de leurs services que j'utilise pour ça, pour faire l'appel le matin et l'après-midi aussi. On a le lecteur de PDF classique, enfin le lecteur qui permet d'écrire aussi sur les PDF qui s'appelle le Note de Metamoji. Il y en a des tas qui existent sous Android, mais celui-là, je l'ai depuis des années, je l'aime bien. J'ai le lien vers mon OneNote et pour ceux qui suivent notre émission, ils savent à quel point j'y mets des trucs sur mon OneNote. Il y a le manuel de ma classe sur OneNote, donc je peux rajouter des trucs à la volée. Et pour rajouter des trucs à la volée, justement, j'ai un lien vers mon appli CamScanner. En fait, c'est un simple bouton qui permet de prendre directement en photo les documents, qui les convertit dans la foulée en images et que je peux envoyer sur OneNote dans la foulée. D'ailleurs, c'est un faux bouton parce que ce sont des dossiers. J'ai rajouté un truc à Android qui est pas mal, qui s'appelle Action Launcher. Je sais pas si tu connais, Jeff. C'est un launcher particulier qui permet de faire des dossiers, mais qui sont quasiment invisibles. C'est-à-dire qu'il n'affiche que la première icône que tu mets dedans, ce qui fait que, par exemple, dans mon cas avec le bouton de mon application, dans le dossier, j'ai mis le bouton et l'application. Il n'y a que le bouton qui apparaît et c'est le premier truc qui apparaît qui est déclenché par défaut. Et si on veut, on peut ouvrir le dossier quand même en faisant un petit glissé dessus.
Là, on en a perdu quelques-uns, à mon avis.
Franchement, tu m'as déjà dit ça.
Hein. Non. Aussi. Non, mais là, c'était très geek. J'ai compris.
C'est vraiment... Bon, après, voilà. Moi, si vous voulez, par exemple, sur mon téléphone, maintenant, j'ai 2 pages, pas plus. Et j'ai un accès rapide à toutes mes applications. Donc, ça, j'ai vu ça sur la chaîne YouTube de Guillaume Slash. Très bon YouTuber techno, d'ailleurs. Voilà.
D'accord, mais ça parle, tu vois, il y en a un, ça lui parle pas là, avec son iPhone.
Je sais, mais c'est pas, pourquoi tu
crois un launcher, il sait pas ce que c'est.
Eh non, tiens, je sais pas ce que c'est, mais bon, bref. On va vraiment avoir ce débat maintenant là.
Allez. Ok.
Merci Seb, en tout cas.
Oh, bah, de rien.
Un bon bilan de ces outils.
Moi, un énième outil pour des vidéos YouTube, parce que bon, dans ma pratique, c'est en ce qui me concerne en tant que prof de langue et de culture quelque part, hein, de culture contemporaine, on va dire, parce qu'on est aussi ça, prof de langue, j'utilise énormément de vidéos YouTube au quotidien, sauf que la plupart du temps, je n'ai pas forcément besoin de la totalité de ces vidéos, et souvent en formation, on me demande comment faire pour les couper, pour les découper. Bon, il existe tout un tas d'outils. Le timecode, c'est ce qui marche même le mieux jusqu'à aujourd'hui. Et Seb fait une tête bizarre, je sais pas pourquoi. Jeff, pardon. En tout cas, je te vois la caméra. Il y a un décalage son et vidéo, c'est assez bizarre en plus. J'ai l'impression que je suis en décalé complet par rapport à vous. C'est pas grave, je continue tout seul. Dans
continue, on t'entend très bien.
Très bien. Alors ouais. Voilà, ce petit site, ce petit outil s'appelle exactement. Il s'appelle. Et ben voilà, je suis tellement bien organisé que. Merci. Hashcut. HASHCUT.com. Et en fait, il permet, si vous voulez, vraiment d'aller enregistrer en fait le bout de vidéo sur la vidéo qui vous intéresse. C'est-à-dire que jusque-là, moi, quand on me demandait comment faire, la meilleure des solutions pour couper les vidéos, c'était vraiment de les télécharger et après aller les éditer avec un outil d'édition classique d'ordinateur. Donc là, comment ça se présente? Pour ceux qui ont la vidéo, je vais vous montrer cela directement. Et j'espère que ça va marcher avec ma connexion un peu bizarre. C'est bon, vous voyez ma page?
C'est bon. Impeccable. Non, ça marche bien.
Bien, voilà. Alors, au préalable, il faut quand même dire que c'est un plugin, un add-on, enfin une extension Google Chrome uniquement, par contre, hein, que vous trouvez en tapant dans le magasin des extensions de la manière la plus classique. Vous tapez ça dans Google, vous le trouvez tout de suite. Ça s'installe, bien évidemment. Et ensuite, quand vous lancez n'importe quelle vidéo, je ne sais rien, tiens, la vidéo des Indestructibles 2, j'ai coupé le son volontairement. Je ne sais pas si vous voyez, là c'est la pub, on va attendre que la pub s'en aille.
Bon, on voit.
Ça ira bien, merci. La vidéo sera lue après cette annonce. Très bien, merci monsieur. Vous voyez, il y a en dessous un onglet en rouge qui est apparu, qui est marqué « Start recording ». Donc là, admettons, à partir de maintenant, ça m'intéresse. Je lance l'enregistrement. Vous voyez qu'il y a une petite bulle qui est apparue ici, qui marque le début de l'enregistrement, qui était ici à 9 secondes. Donc, je vais laisser passer, bien évidemment. Je clique sur le même bouton qui s'est transformé en « end » comme « terminé » en anglais, pour terminer l'enregistrement. Voilà, donc j'ai enregistré mes un peu moins de 20 secondes qui m'intéressaient, moins 13 secondes, 14 secondes. Et là, on me propose plusieurs choses. On me propose soit en fait de les ajouter dans mes enregistrements, puisqu'en fait, il faut se créer un compte, si vous voulez, hein, gratuitement, où vous allez avoir la totalité des clips que vous enregistrez. Vous pouvez avoir un aperçu de ce que vous avez enregistré. Vous pouvez même ajouter du texte, je ne m'en suis pas vraiment servi, des stickers, je ne sais pas trop ce que c'est, j'imagine ces autocollants sur des vidéos, je ne vois pas bien l'intérêt, ou tout simplement supprimer cette, si vous êtes trompé. On va partir du principe que je suis bien content, je appuie sur le même gros bouton, donc on en est qu'au troisième clic, hein. Et il me propose directement le partage. Et là, de manière ultra classique, vous pouvez... Ah, excusez-moi, je tape dans le micro, c'est très désagréable. Vous pouvez partager en direct sur Facebook, vous pouvez partager sur Twitter, par email, vous pouvez tout simplement générer un lien. Vous pouvez aussi avoir un code embed qui va vous permettre de le copier-coller directement dans un... comment dirait-on ? Dans un blog, n'importe quel site qui génère du code, qui accepte du code. Et donc, vous voyez, en fait, finalement, ça m'a pris 3 clics. Vraiment. Génial. Je lance la partie, je termine et je partage. Donc, c'est de loin ce qui m'a paru le plus facile aujourd'hui dans toutes les solutions de partage de vidéos que je connaissais, puisque sinon, quand on veut vraiment garder le fichier, à chaque fois, on est obligé de télécharger, de passer par un éditeur externe. Là, c'est dans le navigateur et ça prend 3 secondes. Il faut se créer un compte. Voilà. Et bon, je ne sais pas ce qu'il advient de nos données personnelles quand on crée un compte sur ce site, peu importe, mais en tout cas, c'est très, très, très pratique.
Ah, c'est génial. Et c'est voilà. Uniquement YouTube, hein, c'est ça?
Je crois, oui. Je crois. J'en mettrai pas ma main à couper, mais je crois bien. Je peux vite fait aller sur le site là en direct. Ouais, c'est YouTube, hein. Clip any YouTube video.
Après, c'est pas vraiment YouTube. Hein.
Génial, hein. L'outil est bien, vraiment.
Après, en toute honnêteté, moi, franchement, il n'y a jamais rien que je ne trouve pas sur YouTube. C'est-à-dire que même s'il y est sur d'autres services, en général, il est sur YouTube. À part après des vidéos sur des sites volontairement propriétaires, très bien protégés. Mais là, de toute façon, c'est un autre souci. Donc, finalement, ça reste quand même, qu'on le veuille ou non, ça reste quand même un média où on trouve à peu près tout. Voilà.
Super, non, super outil. Non.
Très facile, en tout cas.
C'est à qui? C'est à moi. Ouais, j'ai un petit truc très rapide qui va parler surtout aux collègues de maths, je pense, ou prof d'info, plutôt lycée. Je vais parler d'une calculatrice qui est assez connue, en tout cas au lycée, qui s'appelle la NumWorks, qui est une calculatrice assez puissante. Qui va même pouvoir faire de la programmation Python dessus. Et elle a été émulée. Il y a un vrai simulateur, en tout cas en ligne, de la, de cette calculatrice. On peut le mettre en plein écran aussi. Et on a vraiment toutes les possibilités de la calculatrice, hein. Du calcul, bien sûr, de base, les fonctions, la programmation Python, la proba, des statistiques avec des courbes, etc., des équations. Donc voilà, je n'ai pas détaillé cette calculatrice, mais elle était très attendue, en tout cas dans les collègues de maths au lycée, on a eu, c'est eux qui m'ont fait vent de cette simulation de calculatrice, qui marche aussi très bien en HTML5, donc ça marche très bien sur tablette et sur smartphone, donc et là ils sont très très contents en tout cas que NumWorks a mis en tout cas en simulation leur calculatrice. Donc vous pouvez y aller, hein, c'est tout simplement numworks.com et vous allez trouver cet émulateur de la calculatrice. Mmh. Voilà, c'est tout.
Vous pouvez nous retrouver sur le site eTeachers.fr avec tous les épisodes précédents qui sont disponibles sur toutes les applis de podcast également. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Google+. Et pour nous contacter, passez par Twitter, Jeff@Jeff8342, Guillaume@WillO-Teach, T-E-A-C-H, Sébastien@TheTrueSeb et moi-même @Stuter, S-T-U-T-U-R. Au revoir.